30 avril, à la une de votre journal de 7h30 à Nordenstein, les commerçants parisiens obligés de baisser le rideau le 1er mai.
En tout cas, ceux qui sont sur le parcours de la manifestation, un gros manque à gagner pour les commerçants. Ils n'en peuvent plus, vous l'entendrez. Ils projetaient un attentat contre les forces de l'ordre. 4 hommes, dont un mineur, sont toujours en garde à vue à la DGSI. On y revient dans un instant. C'est un PSG en plein doute qui retrouve le terrain ce soir contre Montpellier après la gifle de la défaite en Coupe de France. Un PSG en plein doute, mais où rien ne bouge, nous dira Bruno Salomon.
La météo, plutôt beau pour ce matin avec de plus en plus de nuages. On fait le point juste après le journal. Un point aussi sur vos conditions de circulation. Merci les vacances et merci le pont du 1er mai. Il n'y a pas grand chose à vous signaler.
France Bleu Paris Matin.
En revanche, c'est un 1er mai de tous les dangers qui s'annoncent à Paris.
Un mercredi noir et jaune, c'est ce à quoi appellent les gilets jaunes et les black blocs. Ils veulent transformer Paris en capitale de l'émeute. La préfecture de police ordonne donc à tous les commerçants sur le parcours de la manifestation déclarée de rester fermés l'après-midi. Des dizaines de commerces concernés entre Montparnasse et Place d'Italie. Pour eux, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce directeur d'une brasserie chic sur le boulevard Montparnasse en a franchement ras-le-bol.
C'est totalement inadmissible, hein, y a qu'à voir le Fouquet, c'est quand même des gens qui ont des familles, qui ont des crédits, et on laisse faire. 4 mois et demi, 5 mois de gilets jaunes, la ville est prise en otage. Aujourd'hui, en termes de business, on est comme après le Bataclan, on est à moins 30%. Quand vous voyez au niveau international, vous avez envie avec votre épouse de partir en voyage à Paris? On vient pas, c'est tout, c'est pas possible. Il n'y a pas de clientèle étrangère de tout l'hiver. Et le Parisien, qu'est-ce qu'il fait? Ils partent. Paris n'est plus fréquentable. Paris a commencé à revivre, patatras. C'est la France qui travaille qui est touchée, là. On est des métiers, on travaille matin et soir. Il faut le dire, ça. Alors, non, c'est bon, stop. On n'en peut plus.
Cette inquiétude des commerçants de voir les touristes déserter Paris, on en parlera avec notre invité à 8h15, le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoine. Et toujours à propos des gilets jaunes, l'homme qui avait crié « Suicidez-vous » aux policiers samedi dernier lors de l'acte 23 a été condamné cette nuit à 8 mois de prison avec sursis par le tribunal de Paris.
Dans l'actualité également, 4 hommes toujours en garde à vue ce matin à Levallois dans les locaux de la DGSI.
La DGSI, la Direction Générale de la Sécurité intérieure. Ils sont soupçonnés d'avoir projeté un attentat contre des forces de sécurité. Mathilde Lemaire, il semble qu'on ait bel et bien affaire à des apprentis terroristes.
Leurs auditions semblent confirmer l'ancrage de ces 4 hommes dans la mouvance islamiste. 4 hommes arrêtés à Paris et en Seine-Saint-Denis. On ignore quelles unités ils visaient, mais ils avaient prévu de frapper des forces de sécurité à brève échéance. Attaque que Christophe Castaner qualifie d'attentat important. Plusieurs étaient en train de se procurer des armes. Parmi ces 4 suspects, 3 majeurs de 26, 28 et 39 ans, connus de la justice pour des affaires de droit commun, et un mineur de 17 ans qui lui avait été interpellé il y a 2 ans alors qu'il cherchait à se rendre en Syrie, ce qui lui avait valu une condamnation à 3 ans de prison, dont un ferme par le tribunal pour enfants. Il était ces derniers jours au sein d'une structure éducative dans le cadre de sa mise à l'épreuve. Plusieurs projets d'attentat ont été déjoués depuis le début de l'année. Un adolescent de 16 ans a été arrêté mi-avril. Les enquêteurs ont retrouvé sur son ordinateur des tutoriels pour mener une action terroriste. Lui aussi s'intéressait aux forces de sécurité. Deux vingtenaires, dont un souffrant de troubles psychiatriques, ont été mis en examen pour un projet d'attentat, mais là contre un établissement scolaire.
Mathilde Lemaire pour France Bleu Paris.
La vitesse sur le périphérique encore a baissé de 20 km/h.
C'est pas encore tout à fait, mais ça se prépare. Un rapport d'élus de tous bords recommande de limiter la vitesse sur le périph à 50 km/h au lieu de 70 pour lutter contre la pollution et les nuisances sonores pour les riverains. Le périph qui pourrait aussi passer à 2 voies seulement.
Et vous, êtes-vous prêt à lever le pied ou hors de question? On vous demande et on attend votre avis ce matin sur France Bleu Paris, 01 42 30 10 10. Appelez-nous dès maintenant.
Le PSG de retour sur le terrain ce soir et ça ne va pas être facile. À 19h, les footballeurs parisiens jouent à Montpellier leur match en retard de la 34e journée de Ligue 1. La suite du chemin de croix pour le PSG et visiblement, Bruno Salomon, pas la fin.
On a beau envoyer quelques SMS aux dirigeants parisiens au sujet du président, de Thomas Tuchel ou encore de Antero Henrique, pour l'instant, c'est silence radio au PSG. C'est comme ça remarqué depuis le 6 mars dernier, depuis le cataclysme en Ligue des Champions face à Manchester United. Mis à part Thomas Tuchel, personne ne s'exprime, ni Nasser Al-Khelaifi, ni le directeur sportif, rien depuis 55 jours. Le club tangue, les joueurs lâchent, l'équipe se ridiculise à Lille, Nantes, face à Rennes, mais rien ne bouge et selon certains bruits de couloir, rien ne bougera au PSG. Le président est accroché à son poste, mais on ne le voit quasiment plus au club. Il donne sa confiance à l'intrigant et silencieux directeur sportif qui, lui, ne s'entend pas avec Thomas Tuchel, un entraîneur qui a été prolongé. Bref, ce PSG saison 2018-2019 tourne au mauvais vaudeville et on dirait bien que ça va être encore comme ça la saison prochaine.
Bruno Salomon, qu'on retrouve ce soir aux commentaires de ce Montpellier PSG, à suivre en intégralité, bien sûr, sur France Bleu Paris, avec également Eric Rabessandratana. En revanche, sans Kylian Mbappé, il passe après-demain avec Neymar devant la commission de discipline de la Fédération Française de Foot après son expulsion face à Rennes. Il risque 4 à 5 matchs de suspension.
Et puis on est bien déçus avec Anne parce qu'on aurait adoré être le couple de chanceux qui va pouvoir passer la nuit au musée, en tout bien tout honneur. Hein.
Bah bien sûr, c'est prendre l'apéro avec la Joconde, le dîner en compagnie de la Vénus de Milo. Bon, la nuit aussi sous les étoiles, de la, quand même protégée par la pyramide. C'est vrai que ça nous faisait tous rêver, cette expérience inédite offerte par le Louvre et Airbnb. Bon, pour certains puristes, c'est quand même un sacrilège. Mais pour le musée, c'est surtout une bonne opération, Justine Agar.
Un mariage en apparence contre nature. D'un côté, le musée le plus visité au monde. De l'autre, une plateforme de location en ligne. Pourtant, la stratégie du Louvre est bien rodée, selon Arnaud Mercier, spécialiste en communication.
Le Louvre, en s'associant ici avec Airbnb, peut penser comme ça, toucher des gens qu'elle n'arrive pas à toucher et qui ne fréquentent pas forcément le musée. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du changement d'image et de la pénétration dans des populations qu'elle a des mal à toucher.
Et il y a bien une population en particulier que le Louvre veut conquérir, comme l'explique Fabrice Bousteau, directeur de Beaux-Arts Magazine.
C'est une manière pour le Louvre de conquérir un public très jeune et de donner une image de « le Louvre, c'est cool ».
Quant à la plateforme Airbnb, elle a beaucoup à gagner en proposant des expériences uniques de ce genre.
Airbnb va y gagner considérablement en prestige. Parce qu'Airbnb, dans l'imaginaire en fait du public, c'est quand même des logements un peu cheap. Donc toute l'idée de Airbnb, c'est de montrer que c'est prestigieux. C'est pas du logement à bas coût ou du low cost.
Un mariage inattendu donc, mais donnant-donnant pour ces deux poids lourds du logement et de la culture.
On espère quand même que le couple en question ne sera pas trop déçu de découvrir la Joconde, parce que selon un sondage de la compagnie aérienne EasyJet, le tableau de Léonard de Vinci serait en tête des attractions touristiques les plus décevantes du monde.
Mais
la
non.
Joconde. Et puis alors, en plus, c'est un pas de chance vraiment pour Paris. Dans le top 10, il y a aussi le Moulin Rouge et la Tour Eiffel.
Mais alors,
le Louvre, le Moulin Rouge, la Tour Eiffel.
Et Big Ben et Buckingham Palace, c'est joli.
Ben non, mais voilà, ils sont britanniques, alors ils sont pas déçus de ce qu'ils connaissent.
On est chauvin.